Jésus-Christ, mon conseiller. Jésus-Christ, mon conseiller. Dans Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, le verset 5 et 6, Ésaïe 9. Versets 5 et 6. Il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le ciel de l'Éternel des armées. Amen. Jésus-Christ, mon conseiller, on l'appellera conseiller. Et de tout ce que nous disons ici, si je dois retenir une chose, c'est que nos efforts ne donneront pas ce que nous pensons récolter, sauf si Dieu est avec nous dans ses efforts, sauf si nous sommes dans la voie de Dieu. Sauf si nous obéissons à la parole de Dieu et nous faisons ce que Dieu nous dit. C'est tellement important. Et je trouve, en lisant le psaume 16, que Dieu nous donnera tout. Et en lisant Romains 8, et Éphésiens, je vois que l'Éternel est prêt à tout faire dans ce siècle et dans le siècle à venir si nous suivons ce qu'il dit. Nous avons lu dans le livre de Néhémie, je crois le verset 10. Et nous avons découvert que quand on lisait la parole de Dieu au peuple, le jour où le peuple a voulu prendre conscience de ce que Dieu dit, le peuple pleurait. Le peuple pleurait. En réalité, pourquoi le peuple pleurait? Le peuple pleurait parce que une grande partie a été déportée. Ceux qui sont restés à Jérusalem souffraient. Ceux qui sont allés en esclavage aussi souffraient. Or, Dieu a parlé de ces choses à Israël, a averti Israël. Dieu a averti son peuple pour qu'il n'aille pas en déportation, qu'il ne soit pas dispersé. Dieu leur a dit ce qu'il faut faire. Mais ils n'ont pas écouté. Chacun a compris la chose comme il voulait. Certains ont pensé même que Dieu, c'est notre Dieu à nous tous. Donc, moi aussi, je vais m'adresser à lui. Moi aussi, s'il dit quelque chose, non, il peut me parler aussi. S'il parle, je vais réfléchir pour voir si je peux, etc. Du désordre. Et finalement, ils ont été déportés. Et ce qu'ils ne faisaient pas bien, et que Dieu leur avait dit, c'est finalement ce qu'ils ont fait après 70 ans de souffrance. Les Israélites ont vécu au point où même la Torah est restée dans la poussière, dans la synagogue. Les autels, ils ont laissé l'autel de Dieu pour aller vers d'autres autels, pour créer leur propre autel. En voyant les autres peuples, en voyant comment peut-être la richesse ou quelque chose qui arrive aux autres peuples, ils ont pensé qu'il faut aller vite en passant par Baal. Par exemple, Baal Péor, je vous ai dit que c'est l'idole, c'est le dieu de Madianites, et qui sont les enfants de Keturah. Donc, vous voyez que ils sont de même père. Ils descendent tous d'Abraham. Donc, si eux aussi peuvent avoir un dieu qui peut-être leur donne plus de brebis, plus de ceci, donc nous aussi allons mettre Baal Péor, l'autel à Baal Péor pour avoir la même chose. Or Dieu leur a dit qu'il sera leur Dieu. L'éternel Dieu est le Dieu d'Israël. Ils ne doivent adorer aucun Dieu à part ce Dieu. Dieu leur a dit de mille façons ce qu'il faut faire, qu'ils ont refusé, ce qu'il ne faut pas faire, qu'ils ont fait. Ils trouvent souvent que ce que Dieu dit est difficile à faire et ils refusent. Maintenant, ils souffrent. Quand ils refusent, Dieu les abandonne. Et ils souffrent à cause de ça. Et quand ils souffrent, ils se rappellent de ce Dieu. Vous connaissez l'histoire de Néhémie, vous connaissez l'histoire d'Esdras, vous connaissez l'histoire d'Esther, de Mardochée, etc. C'est quand Dieu leur met le feu aux fesses qu'ils se souviennent que Dieu a des règles. La première règle, c'est quand il te parle, tu ne dois pas avoir de doutes. Tu lui fais tout simplement confiance. Et il t'amène au vert pâturage, à des eaux abondantes. Ce que tu veux, tu peux l'avoir de deux manières. Soit tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, et jamais tu ne l'as. Ou Dieu voit que tu le forces, il t'a parlé, tu ne veux pas, et tu le pries pour ne pas faire ce qu'il veut, et il t'accorde ce que tu veux, mais en inscrivant ton nom comme pécheur, parce que tu n'as pas cru en Dieu, et en te mettant complètement à côté, tout l'effort que tu feras dans ta vie, tu croiras que tu iras le voir un jour. alors que tu ne le verras pas. Parce que ton cœur ne te permet pas, tu n'as pas fait confiance à Dieu au point où tu dis que non, ça c'est, non, Dieu ne peut pas te faire ça, Dieu ne peut pas te dire ça, Dieu ne peut pas faire ça. Et tu fais ce que tu veux. Ou tu écoutes Dieu et tu comprends que Dieu, par cette simple obéissance, t'apporte ce que tu veux, ce que tu cherches, et au-delà de ce que tu cherches. Il t'apporte même les choses, ce que tu penses. Et moi, je pense à certaines choses, mais je pense que en tant qu'homme, je me dis, je ne peux pas l'avoir. Mais Dieu peut te le donner sans que tu ne le demandes. Il te donne au-delà de ce que tu penses ou demandes. L'Éternel, mon conseiller, psaume 16. Dans Ésaïe, il est dit que Jésus-Christ sera appelé conseiller, prince de la paix, Dieu puissant et autres. Et il est dit en même temps que le zèle de l'Éternel à travers ce Jésus-Christ, cet enfant qui sera né, sera de donner au trône de David, de donner à ceux qui le suivent, de donner à son royaume, à ceux qui vivent avec lui, la paix et le droit, la justice, tout. C'est dit dans Ésaïe, plusieurs siècles avant que Jésus-Christ ne soit né. Et bien avant Ésaïe, David a prophétisé, a écrit ce psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Et vous voyez que c'est le cri de quelqu'un qui veut, qui a des problèmes et qui veut une solution à ses problèmes. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Moi qui suis assis ici, c'est mon cri. Je ne sais pas si c'est votre cri aussi. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Si je pousse ce cri, il faut que je sache ce qui l'accompagne. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Ceux qui ont lu des écrits sur l'esclavage, ou qui ont vu des films sur l'esclavage, comprendront ce qu'on appelle mon Seigneur. Le Seigneur d'un domaine possède les esclaves au point où ils sont tout pour lui. C'est-à-dire, c'est lui qui décide de ce qu'il doit faire. S'il te met à la cuisine, s'il te met dans son manoir, s'il te met au champ, Tu fais exactement ce qu'on te demande de faire. Et si tu ne le fais pas, tu reçois des coups. Quand je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, cela veut dire que je ne peux faire que ce que tu me demandes. En revenant à la Bible, vous verrez que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Cela veut dire que Sarah est là pour faire la volonté de Abraham, pas pour s'élever contre Abraham. Elle est là pour faire la volonté d'Abraham. Mot souverain bien veut dire que la décision d'Abraham est une décision souveraine, quel que soit ce que moi je peux penser de cette décision, c'est la souveraineté qu'exerce Dieu est bien. C'est Dieu dans sa souveraineté qui dit, si tu sais que tu cherches ton refuge en Dieu, tu dois accepter que l'Éternel est ton Seigneur et qu'il exerce une souveraineté telle que tu ne peux pas déclarer que l'Éternel est ton Seigneur et encore passer le temps à réfléchir ou à désobéir, à ne pas lui faire confiance. Il a de la souveraineté dans tout ce qu'il fait en tant que Seigneur. Cette souveraineté est bien. Que tu veuilles, que toi tu penses que, quel que soit ce que tu penses de ce que Dieu dit, il faut que tu saches et que tu vives la souveraineté de Dieu, quel que soit là où Dieu t'amène. Ça doit être, tu la dois considérer cette souveraineté comme étant bien. Là où Dieu dit que tu dois être, c'est là où tu dois être. Ce qu'il veut te donner, c'est ce que tu prends et tu lui fais confiance. Verset 5. Psaume 16, verset 5. L'Éternel est mon partage et mon calice. Avant de continuer avec le verset 5, le message de ce matin est intitulé Jésus-Christ, mon conseiller. Je lirai donc le verset 7. Le verset 7 dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. C'est après avoir crié, garde-moi, ô Dieu, car en toi je cherche mon refuge. David a reconnu que l'Éternel est son Seigneur et son souverain bien. Maintenant, dans le verset 5, dans le verset 3 et 4, vous allez voir que David s'est éloigné de comment les autres pensent, comment les autres voient la vie. Il s'est accroché à ce Dieu, ce qu'il appelle son Seigneur, son souverain bien. Et à partir du verset 7 jusqu'à la fin, vous voyez que David maintenant exprime une reconnaissance à Dieu pour ce que Dieu a été pour lui dans les versets 5 et 6. David a crié à Dieu et a précisé quel Dieu, à quel Dieu il crie, et a dit qu'il ne veut pas marcher avec les idolâtres, ceux qui pensent les choses autrement. Dieu a réagi, a fait pour David, qui lui a fait confiance, ce que nous lisons tout de suite dans les versets 5 et 6. Et David a exprimé sa reconnaissance dans les versets 7 à 11. Jusqu'à même la joie que ça lui donne, tout ce que Dieu lui a fait. Je lisais tout de suite dans le verset 7 que je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans la allégresse et mon corps repose en sécurité. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Ce qui veut dire que David nous décrit comment il a vécu avant de recevoir ce qu'il a reçu. J'aimerais que toute ma maison ait ce comportement, toute votre maison ait ce comportement. L'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ est mon conseiller. Et je dis que nous ne suivons pas les conseils. Si tu es l'Éternel, mon Seigneur, mon souverain bien, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Parce que je fais quoi? Je suis tes conseils. Alors, je reviens à ce que, aux choses pour lesquelles nous courons, pour lesquelles nous crions, si nous disons, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je voudrais vous dire que nous prions tous. Mais ça doit passer par, quand nous avons crié à Dieu, nous devons attendre ses conseils pour que lui, il se tienne à nos côtés, en nous, il nous conseille. Et nous verrons que ce qu'il nous aura donné est durable. Sinon, si nous crions, garde-moi, ô Dieu, car en toi, je cherche mon refuge. Et que nous ne savons pas que, alors si nous avons invoqué Dieu, il est Seigneur, il est souverain bien, il est notre conseiller, c'est lui qui nous dira ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que le verset 5 et le verset 6 disent? L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux mais échu. Une belle possession m'est accordée. C'est comme dans Ésaïe, on a parlé de Dieu, de Jésus-Christ, et puis on a dit ce que ça fera pour le trône de David. Si Dieu est l'Éternel, mon Seigneur, s'il est mon souverain bien, alors c'est son conseil. C'est le Saint-Esprit qui nous conseille. Il est mon partage et mon calice. C'est-à-dire que ce qu'on donne aux gens, oh, Dieu partage des choses. Pourquoi Dieu ne le fait pas pour moi? Et il est mon partage. Et mon calice, c'est lui qui m'assure mon lot. Quand on a partagé les choses, c'est par l'eau. Ce qui est bon pour moi, il assure mon lot. Ce qui est bon pour moi, ce que je ramasse, c'est comme, elle c'est au lot de la vie, c'est comme, on a fait des tas de bénédiction, c'est l'Éternel qui assure ma bénédiction, mon lot de bénédiction. Quand il partage, il donne à chacun. Il est mon partage et mon calice. Pourquoi mon calice? Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle le calice dans la Bible. Dans la Bible, c'est la coupe sacrée. C'est la coupe. Quand Jésus-Christ dit dans Luc 22, 42, et si c'est possible, Père, éloigne cette coupe de moi. Nous avons des coupes à boire. Mais le même calice dans la Bible peut être un calice de bénédiction ou un calice de malédiction. Donc, quand Dieu est mon partage, il s'assure que la coupe dans laquelle on mettra le récipient dans lequel on mettra mon lot de bénédiction est un récipient de bénédiction. Vous vous souvenez du livre de Daniel où Belshazzar, qui est fils de Nebuchadnezzar, a pris les coupes de bénédiction dans le temple, ce qu'ils ont ramené de Jérusalem, et a mis son vin dedans avec ses amis, et il est mort le même jour. Donc, si c'est une coupe de bénédiction, c'est-à-dire que Dieu te donne un lot de bénédictions et doit te donner aussi le récipient dans lequel tu le gardes. Un récipient de bénédictions. C'est très, très, très important, mes amis. Un récipient de bénédictions parce que, vous voyez, moi, Dieu m'a béni. Je n'ai pas insister sur le calice. J'ai pris ma bénédiction. Moi, je ne savais pas, je n'avais jamais pensé que les hommes peuvent être dans le mensonge. Donc, le calice, puisque je n'ai pas demandé à Dieu de me donner un calice de bénédiction, il a été mon partage. Est-ce que j'ai compris que il faut une coupe pour avoir du bon vin dedans? Le calice était mauvais, c'est un calice de malédiction. Mais si Dieu a donné une vie de malédiction à quelqu'un et que toi tu veux sauver la personne parce que Dieu t'a donné de l'argent ou Dieu t'a donné ceci, tu penses que tu peux? mon calice. L'Éternel, mon partage et mon calice. S'il te dit, l'Éternel te donne quelque chose, il faut que l'Éternel te conseille pour que tu saches où se trouve le calice de bénédiction, la coupe de bénédiction. Jésus-Christ a voulu qu'on éloigne cette coupe de lui. Mais c'était la coupe de bénédiction. La coupe dont parle Jésus-Christ n'est pas nécessairement la coupe qui est faite de métal. Mais quand Dieu te donne le partage, mais cette coupe sera l'allégorie, et cette coupe sera celle dans laquelle Jésus-Christ buvait son vin et qu'il l'a passé aux autres pour qu'ils boivent ce vin comme étant son sang. Il est mon partage et mon calice. Parfois, tu penses que le calice que Dieu te donne, c'est de la malédiction. C'est arrivé à Jésus-Christ aussi. Mais fais attention pour que Dieu soit ton conseiller, pour que tu ailles jusqu'au bout. Sinon, tu vas penser que le calice qui est de l'autre côté brille mieux et ce sera, tu auras pris ton partage, mais ce sera fini parce que ce n'est pas le calice des bénédictions. Il m'assure mon lot. Un héritage, je suis héritier, co-héritier de Jésus-Christ. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Alors, je bénis l'Éternel, mon conseiller, celui qui m'a conseillé pour que je vive dans mon Seigneur, pour que je fasse confiance à la parole de Dieu, mon Seigneur et mon souverain bien. Alors je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon cœur, mes os, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, je voudrais vous dire ceci. J'essaye d'observer ce qui se passe avec nous en Christ. Et je constate qu'il y a de la douleur, de la souffrance. Si cette douleur est une voie que Dieu nous a choisie, cette souffrance est une voie que Dieu a choisie, comme pour Jésus-Christ, qui a dit que nous prenions notre croix pour le suivre, alors c'est bien. Mais si cette douleur vient de ce que nous ne voulons pas faire confiance à Dieu, ne croyez pas qu'un jour ça va s'arrêter. Que l'Éternel soit notre conseiller. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est que en ce qui concerne la prière, notre relation avec Dieu, c'est en tout temps, même quand nous dormons, même quand nous dormons, nous devons savoir que le Saint-Esprit, nous devons constater que le Saint-Esprit, quand nous dormons, nous parle, quand nous dormons, chante. Et nous, quand nous nous réveillons, nous devons savoir, et nous sommes convaincus que et la chanson que le Saint-Esprit chantait toute la nuit dans le cœur, dans notre cœur, est une voix de Dieu. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Mais quand ce n'est pas le cas, moi, très souvent, le Saint-Esprit chante Et je me réveille, je continue de chanter, je chante fort. Parfois, je me lève même pour danser et je me recouche. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Il est mon conseiller. Dieu est mon conseiller, même la nuit, même le jour. Et donc, quand je marche en Christ. Je marche en Christ. Je crois que c'est vers ça que nous devons tous tendre, de sorte que nous ne pensions pas que, non, je fais ce que je veux, ce que mon cœur aime. Non, je fais ça. Après, je me mets à genoux pour dire à Dieu ce qu'il doit faire pour moi. Non. Il faut que nous disparaissions et que Dieu grandisse en nous. Mais tant que ce ne sera pas fait, nous nous trompons. Tant que ce ne sera pas fait, nous nous trompons. Nous nous trompons. Mais nous, les chrétiens, nous avons vécu comme nous vivons, comme nous voulons, parce que nous croyons que c'est la liberté. Et nous voyons devant nous passer des gens que nous pensons ne pas être de Dieu, mais qui suivent la règle. C'est comme Corneille. Au moment où les Israélites n'ont pas reconnu le Seigneur, mais Corneille, lui, il n'est pas Israélite. Mais lui, il prie comme ces gens-là. Et il est un homme, comment on peut le dire? On lui a donné un qualificatif. Et finalement, c'est Dieu qui l'a visité. Alors que pour Pierre, il ne peut pas mettre pied dans la maison de Corneille parce que c'est un pécheur. Mais c'est Corneille que Dieu a visité. Ce n'est pas Pierre que Dieu a visité pour commencer. C'est Corneille que Dieu a visité. Et quand Pierre avait fait maintenant, et que les gens ont commencé par leur marche pour venir chez Pierre dans son village, alors Pierre aussi a vu une bâche pleine d'animaux impurs. Dieu lui dit, prends. Et mange. Prends et mange. Et quand Pierre est allé pour lui démontrer que ce n'est pas lui, c'est Dieu qui est le Seigneur, le souverain bien, il a commencé par faire son discours. Quand Corneille non seulement l'attendait, mais a invité ses amis, sa famille, tout le monde. Et c'est tout le monde qui a commencé. Pas parler en langue. Tous ont reçu le Saint-Esprit. Et les autres disciples l'ont critiqué. Pourquoi tu es allé donner le Saint-Esprit à ces gens? Comment est-ce que moi j'ai donné le Saint-Esprit? Moi je ne faisais que parler. Et puisque Dieu a jugé bon, pourquoi on ne va pas les baptiser? Ils ne vont pas passer le baptême de l'eau. Puisque l'essentiel, le baptême essentiel l'ont fait. Pensez à ces choses. Et appropriez-vous ces messages. Et que Dieu soit avec nous. Parce que je vois que nous courons beaucoup. Et il y a des gens. J'observe aussi les charlatans. Et quand quelqu'un a un gris-gris, il a foi, il a confiance que ce Dieu-là, ce gris-gris-là va faire ce qu'il va demander. Moi, je voulais le dire parce que moi aussi, j'ai fait le gris-gris marche. Je ne peux pas vous tromper. Si je vous dis que le gris-gris ne marche pas, je vous ai trompé. Si quelqu'un vous dit que Satan n'est pas là, il vous a trompé. Mais Dieu nous a dit de ne pas suivre Satan. Parce qu'à la fin, ce que ça va donner, nous allons le regretter. Que Dieu fasse en sorte que nous puissions crier, lui crier. Garde-moi, ô Dieu, car en toi je cherche un refuge. Tu es l'Éternel, mon Seigneur, mon souverain bien. Tu es mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte et tu es toujours à ma droite. Tu es mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux, mais échu. Je bénis l'Éternel parce qu'il est mon conseiller. C'est lui qui vient me dire tout ce que je dois faire. C'est fait, ça se fait. C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi Dieu dit que David, il a trouvé un chef conforme à son cœur. Parce que David, lui, la différence entre David et les autres, c'est que David a appris toute sa vie à ne faire que, à ne commencer quelque chose que lorsque Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, que ce soit mauvais devant les gens ou bon devant les gens, Dieu lui a dit, la famine qui est là, c'est parce que Saül a voulu détruire les Éviens qui étaient les étrangers que Josué avait reçus. Mais finalement, comment on fait, Dieu? Qu'est-ce qu'on fait, Dieu? Tu livres les enfants de Saül? Il a livré les enfants de Saül. Pourtant, lui-même, toute sa vie, Saül l'a offensé, mais il n'a jamais porté la main sur lui. Mais quand Dieu lui a dit, livre les enfants de Saül, il a livré les enfants de Saül. C'est la même personne, c'est le même David qui a cherché le fils de Saül qui est perclus, qui mange avec lui à table. C'est le même qui a livré l'autre fils de Saül. Que Dieu soit avec nous.